Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Christophe Cessier.
7h05, vous êtes sur RMC, l'intégral sport, dans une heure, l'intégral Coupe du Monde, mais on va déjà rentrer dans cette nouvelle journée de Coupe du Monde qui sera très importante avec des matchs capitaux. Et surtout, nous sommes à 24h du deuxième match de l'équipe de France qui affrontera l'Irak, ce sera demain soir. Pour évoquer l'actualité de la Coupe du Monde, je me suis entouré du meilleur. Ballon d'or, s'il vous plaît. Jean-Pierre Papin est avec nous dans l'intégral sport. Salut Jean-Pierre.
Bonsoir Christophe.
Merci d'être là, c'est toujours un plaisir,
avec plaisir
d'être avec toi. Jean-Pierre qui nous a fait vibrer et qui continue évidemment de distiller ses conseils et ses avis sur la Coupe du Monde et notamment sur l'équipe de France que tu as bien connue. Alors on va parler de l'équipe de France dans un instant, on sera à Philadelphie avec Arthur Perrault. On va aussi s'intéresser à l'Allemagne qui a réalisé un très beau truc hier face à la Côte d'Ivoire. Enfin, ils se sont fait peur quand même les Allemands. Et les Allemands qui pourraient bien être nos adversaires en huitième de finale. Hein. Donc là, c'est quand même pas une très très bonne nouvelle, ni pour eux, ni pour nous. Et puis, je crois, Jean-Pierre, que tu voulais tirer un coup de chapeau à la sélection néerlandaise qui t'a épaté hier, qui s'est imposée largement. Toujours une image étonnante de voir. Et ça rappelle un peu notre jeunesse. Hein. Moi, je suis né au foot avec la Hollande de Cruyff et tout ça. Et de les voir leurs descendants, ben, ça fait toujours quelque chose. Je ne sais pas si ça te fait la même chose à toi.
Ouais, c'est des souvenirs de petits garçons en fait qui commençaient à aimer le football. 74, 78, j'avais 11 ans, après 15 ans. Et c'est vrai, je commençais à être assidu sur les Coupes du Monde. Et c'est vrai que cette équipe de Hollande m'a toujours un petit peu marqué. Parce que des grands joueurs, parce que elle te fait vibrer dans la façon de jouer. Et en fait, de ce qu'on voit depuis maintenant que le football existe, en fait, un des seuls pays qui n'a pas été, par rapport à sa qualité, titré, c'est eux.
Ils ont eu des titres de champion d'Europe, mais effectivement, jamais de Coupe du Monde. Et trois finales disputées et trois finales perdues, ouais, je crois. Hein.
Ouais, trois finales perdues. Mais bon, je pense que c'est la grosse côte. C'est la grosse côte parce que c'est une équipe qu'il va falloir se méfier. Autant le premier match contre le Japon, ça a été un petit peu poussif. Mais hier contre la Suède, même si la Suède leur a laissé quand même un peu les portes ouvertes, ils ont montré que si les portes sont ouvertes, ils sont capables de marquer des buts aussi.
Ouais, ouais. 5 buts à 1 donc pour les Pays-Bas, effectivement, face à la Suède. C'était l'un des chocs de la journée hier. Mais on ne pensait pas que les Hollandais allaient en mettre autant aux Suédois qui ont vraiment subi une drôle de déculottée. Voilà donc pour ce match entre les Pays-Bas et la Suède et ce maillot orange qui résonne en nous et qui nous rappelle les souvenirs d'enfance à Jean-Pierre et à moi. On va maintenant partir du côté de Philadelphie. C'est là où se trouve Arthur Perrault, notre globe-trotteur qui passe de ville en ville, qui passe des États-Unis au Mexique et au Canada. Il est donc à Philadelphie où l'équipe de France est arrivée, elle aussi. Salut Arthur.
Salut messieurs, bonjour à toutes et à tous. L'équipe de France qui ne va pas tarder à arriver, ils sont dans l'avion actuellement. Voilà. Ouais, ils ont décollé il y a une petite heure de Boston, de leur camp de base. Et voilà, il y a une heure d'avion pour rejoindre Philadelphie, ça ne devrait pas tarder.
Une heure d'avion pour donc rejoindre Philadelphie. Mais ils vont pas faire de vieux os à Philadelphie a priori. Hein. Ils vont pas rester très longtemps, c'est pas leur ville préférée.
Non, pourtant ils ont bien tort, hein, c'est une ville vraiment sympa. C'est vrai qu'ils vont arriver donc ici vers midi heure locale, vers 18h heure française. Et puis il y aura donc les traditionnelles activités de veille de match ce soir à 21h heure française. D'abord avec la conférence de presse du sélectionneur Didier Deschamps et normalement du capitaine Kylian Mbappé avant sa 100e en bleu. Et derrière à 23h le dernier entraînement avant ce match demain face à l'Irak. Et c'est vrai que dans la foulée de cette rencontre, les joueurs de l'équipe de France devraient directement prendre l'avion derrière pour retourner à Boston pour rejoindre une nouvelle fois leur camp de base.
Les températures sont similaires entre Philadelphie et Boston, c'est supportable.
Oui, c'est quasiment la même chose. Aujourd'hui, il fait très beau, hein, 29 degrés d'annoncé à l'ombre en plein après-midi. En revanche, et ce sera à surveiller demain, on annonce de la pluie et surtout des orages. Et c'est vrai que c'est la première fois que les Bleus vont être confrontés à ce type de situation, puisque donc il y a quand même un dispositif de mis en place à la fois par le service météorologique national des États-Unis qui a fait des recommandations avant le début de la compétition à la FIFA sur tout un protocole à suivre. Et donc la FIFA a mis ce protocole en place. Donc s'il y a des orages qui sont annoncés, qui sont en approche du stade pendant la rencontre, Il peut y avoir une suspension de la rencontre, et si vraiment cela dure, le match peut être reporté. Voilà, il y a plusieurs conditions derrière, mais la plupart du temps, ce sont des simples pauses qui peuvent durer un petit peu. Ce sera évidemment à surveiller demain, mais quand on regarde les prévisions météo pour cette journée qui arrive, en effet, il y a de la pluie et de l'orage à l'ordre du jour.
Bon, attention, avec le programme hyper chargé de cette Coupe du Monde, reporter un match, ça doit être compliqué quand même. Donc on espère évidemment que les orages laisseront les Irakiens et les Français tranquilles demain. Jean-Pierre, deuxième match de l'équipe de France, c'est vrai que la démonstration, notamment deuxième mi-temps face au Sénégal, nous a rendu plutôt optimistes. Qu'est-ce que tu attends de ce deuxième match? Et l'adversaire sans doute le moins difficile pour l'équipe de France, mais c'est le genre de match un peu piège, c'est-à-dire qu'on sait pas trop comment le prendre. Est-ce qu'il faut jouer avec l'équipe type? Est-ce qu'il faut laisser jouer les remplaçants? Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Moi, j'attends 3 points. Après, la manière, sincèrement, dans ce genre de match, t'en as... bon, elle compte, bien évidemment, parce que tous les coachs aiment que leur équipe joue bien et gagne. Mais bon, il y a des matchs où, quelquefois, il faut juste les gagner et passer le tour d'après.
Ouais. Bon, l'équipe de France, Arthur, malheureusement, doit en plus séduire. Elle doit gagner, mais en plus, elle doit séduire. Oui. Elle l'a fait lors de la deuxième mi-temps face au Sénégal. Alors, quelle équipe verrons-nous demain? Est-ce que Deschamps va procéder à de multiples changements ou avec parcimonie seulement?
C'est parcimonie, hein, exactement, c'est le bon mot, Christophe, et c'est la tendance depuis avant-hier où il y a eu cet entraînement à huis clos du côté de la Bentley University dans le Massachusetts où de ce que l'on a pu apercevoir, 3 joueurs pourraient faire leur apparition dans le 11 de départ après avoir marqué des points. C'est le cas de Lucas Digne en défense, de Manu Koné au milieu de terrain et de Bradley Barcolay en attaque. 3 joueurs qui en effet ont réussi à convaincre lors de leurs dernières entrées en jeu, ce qui nous donnerait une composition probable. Je vous la redonne en intégralité. Maignan dans la cage, la défense, Koundé à droite, Digne à gauche, donc à la place de Théo Hernandez, la charnière composée de Upamecano et de Saliba qui malgré ses gènes au dos peut enchaîner. Au milieu de terrain, Koné à la place de Tchouaméni associé à Adrien Rabiot, et donc devant, Dembélé va basculer sur le couloir droit puisque Michael Olise devrait enchaîner comme en deuxième période face au Sénégal dans l'axe. Bradley Barcola donc à gauche à la place de Désiré Doué, et devant le capitaine Kylian Mbappé.
D'accord, donc Dembélé sera bien là, hein, pas à la place,
oui, à droite, plutôt.
À laquelle il avait débuté lors du premier match, ouais. mais à droite. Jean-Pierre, on peut pas se passer d'un ballon d'or. Tu as été ballon d'or toi aussi. Quand on a un joueur d'une telle qualité dans une équipe, on essaye de le mettre peut-être pas à son poste de prédilection, mais il faut avoir Ousmane dans cette équipe. Il est capable par un éclair de génie de faire la différence.
Oui, non, mais Dédé le sait de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc déjà, il l'a posté côté droit pour laisser Olise derrière l'attaquant. Et je pense que ça, c'est une très très bonne chose. Après, bien évidemment, on connaît tous les qualités de Ousmane. Il n'est pas ballon d'or par hasard. Maintenant, on attend juste en fait le déclic avec Kylian Mbappé. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. On a pratiquement pas vu lors du premier match, mais pour moi, ça va exister obligatoirement.
Ouais, il faut que ça arrive un jour, Arthur. On dit que les deux garçons en plus sont hyper potes dans la vie, mais c'est vrai que Bien sûr. Le terrain, ça a jamais fonctionné à merveille, quoi. C'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus aussi bon que ce qu'on est.
Flamboyant. Ouais. Bien sûr, oui, on attend plus de cette connexion, très clairement. Alors évidemment que la question se pose, Jean-Pierre, tu parlais de Kylian Mbappé qui a réalisé, allez on va dire 60 premières minutes face au Sénégal, très compliqué avant d'être vraiment brillant en fin de rencontre. Mais c'est vrai qu'on attend surtout Ousmane Dembélé à droite. Qu'est-ce que ça va donner, lui qui n'a pas évolué à ce poste depuis très longtemps, qui s'est habitué à être dans l'axe, avoir énormément de liberté au Paris Saint-Germain, mais il faut le répéter, il n'est pas entouré des mêmes joueurs, il n'est pas dans le même dispositif tactique, pas dans les mêmes dispositions, mais la chose qu'on nous répète, c'est que Ousmane Dembélé, même si sur le dernier match a été compliqué pour lui, il reste exemplaire. Il est le premier à encourager ses coéquipiers, y compris quand il a été remplacé, le premier à fêter le deuxième but magnifique de Kylian Mbappé à New York la semaine dernière. Donc voilà, il continue d'être irréprochable, et j'ai envie de dire, quand il a été dans ce type de situation ces 2 dernières saisons au Paris Saint-Germain, il a toujours su réagir. Il a toujours
oui,
su réagir,
oui, mais après,
mentalement
après
et fois, sur le terrain.
Oui, après, quelquefois, tu peux mettre les meilleurs joueurs ensemble. Et ben pour une raison que personne ne s'explique, ouais, ouais. ça marche pas. Et tu peux faire ce que tu veux, mais ça marche pas. Donc si ça devait être le cas, après c'est à Dédé de prendre ses responsabilités par rapport à l'un ou par rapport à l'autre.
Est-ce que l'association Canto Papa a marché du premier coup, Jean-Pierre, à la grande époque?
Oui, mais nous on joue ensemble.
Et ouais, c'est ça.
Nous on joue ensemble à l'OM et ouais. À l'OM déjà on avait quelques complicités, quelques complémentarités. Après, après c'est devenu beaucoup plus que ça. Même en équipe de France, ça fonctionnait. Et après, voilà, il faut travailler aussi les automatismes. Si tu les travailles pas, ça devient difficile quelquefois.
Évidemment, évidemment. Donc Dembélé avec Mbappé, avec Olise. Et donc côté gauche, tu le disais, Arthur, oui. Barcola qui a effectué une très belle rentrée l'autre jour, puisqu'il a pas joué énormément, mais qu'il a marqué un but superbe avec ce petit ballon piqué, et qui est donc récompensé de son but par cette titularisation dès le deuxième match, en quelque sorte. Hein.
Oui, puisque, et là c'est aussi le même débat qu'au Paris Saint-Germain, c'est que il y a cette concurrence qui existe hein, entre Désiré Doué et Bradley Barcola, deux hommes qui, on le rappelle, ont deux profils assez différents. Désiré Doué qui est plus dans la conservation, dans la technicité, voilà, qui fait aussi énormément d'efforts dans le repli défensif, et à l'inverse un Bradley Barcola qui arrive à faire des débordements, qui apporte sa vitesse, ses dribbles aussi, qui arrive à faire des différences. Et c'est ce qui a marché sur le dernier match, et c'est ce que Didier Deschamps a envie de revoir, et c'est pour ça qu'il lui offre cette opportunité d'enchaîner. Donc voilà, pas une nouvelle fois comme au PSG, la concurrence et est plus que jamais sûr. D'actualité sur ce côté gauche.
Jean-Pierre, si tu avais à choisir Doué, Barcola, deux beaux talents, deux joueurs un peu différents, mais qui
je vais être très cash avec toi. Ouais. Je vais être très cash avec toi. Moi, je suis fan de Barcola.
D'accord.
Moi, je suis fan de Barcola parce qu'il fait partie de... Alors, j'aime beaucoup Désiré Doué, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais en fait, il fait partie de ces joueurs qui, aujourd'hui, font partie du football moderne avec énormément de vitesse, capable de prendre la profondeur, capable de fermer un côté, de l'ouvrir aussi, capable de marquer des buts, capable de donner. Moi, j'aime beaucoup. Après, je suis fan. Après, je pense aussi que Dédé, par rapport aux diverses blessures de Doué... il veut peut-être aussi le ménager un petit peu, parce que le joueur lui aussi est incroyable, mais peut-être que pour aller jusqu'au bout de la compétition, le plus loin possible, il faudra que les deux ils soient en pleine forme. Et je pense que de faire jouer l'un et jouer l'autre, ça peut être très bien pour eux.
Ouais, parce qu'évidemment, il y a certains joueurs qui n'ont pas l'habitude d'être remplaçants, qui sont dans cette équipe de France et qui cirent le banc et qui risquent de le cirer longtemps. Donc c'est bien aussi d'offrir à ces garçons qui n'ont pas l'habitude de cirer le banc, de leur offrir quand même quelques minutes de jeu, même peut-être plus que quelques minutes au cours d'une Coupe du Monde, Jean-Pierre. Hein.
Mais tu peux pas, quoi qu'il arrive, jouer avec les 11 titulaires, les 5 matchs. Dans l'absolu, bien sûr. Mais quand tu prends 26 joueurs, je pense que Quand t'as l'occasion et l'opportunité de pouvoir tourner, il faut tourner. Parce qu'aussi, c'est la vie d'un groupe qui est importante. Être sur le banc, ça fait jamais plaisir. Ça fait la gueule à l'entraînement. Ça fait la gueule quand t'es tous ensemble. Et c'est pas bon. Donc, le fait aussi de donner quelques minutes à certains, ça aussi met quelque chose de positif dans le groupe.
On va écouter Lucas Digne, le latéral de l'équipe de France, qui va donc jouer aujourd'hui avec Barcola devant lui. La dernière fois, c'était Doué. Alors, lequel préfère-t-il? On l'écoute, Lucas Digne.
Pour commencer, non, tout se passe très bien. On s'est adapté au jet lag et aussi à la chaleur. Donc, ça a mis quelques jours. Mais là, maintenant, le groupe vit bien. Et après, concernant l'aspect tactique, c'est deux joueurs différents. Désiré préfère être un peu à l'intérieur. Donc, c'est au latéral d'adapter ses courses aussi. Bradley est collé à la ligne. Et très agréable de jouer avec les deux. Ils sont très différents. Et en même temps, ils peuvent être complémentaires à l'équipe. Et c'est super.
Voilà, Lucas Digne. Ah, il va pas se mouiller. Hein.
Lucas Digne qui va prendre des positions.
Hein. Il est pas dans la position de Jean-Pierre où il peut dire ce qu'il pense. Là, lui, évidemment, il va surtout pas dire le contraire de son sélectionneur. Très bien. Un petit mot sur la défense de l'équipe de France, Arthur, avec Saliba, dont on dit qu'il est toujours un peu souffrant, ce dos qu'il fait souffrir et qui l'empêche pas malgré tout de tenir sa place. Hein.
Non, mais il a donné plus de détails. Hein. Lui aussi était en conférence de presse hier avec Lucas Digne. Et c'est vrai qu'on le savait. Hein, déjà, sur la fin de saison, il avait forcé avec Arsenal, que ce soit pour finaliser le titre de champion d'Angleterre et aussi jusqu'à la finale de Ligue des Champions perdue face au Paris Saint-Germain. Voilà, il a ses gènes qui traînent depuis un moment, dont il a du mal à se débarrasser. Elles sont encore là. Et d'ailleurs, il le dit lui-même. Hein, il dit qu'il y a des choses sur le terrain qu'il ne peut pas faire à cause de ces douleurs-là. Évidemment, il ne va pas rentrer dans le détail parce que ça donnerait des indications aux adversaires à venir. Mais voilà. Mais la réalité en équipe de France aujourd'hui, c'est qu'un Saliba à 80% est supérieur à un Ibrahima Konaté à 100% qui sort d'une saison compliquée avec Liverpool. Donc et ça, Didier Deschamps le sait très bien. C'est pour ça que le staff est au petit soin avec William Saliba. Voilà. Je sais qu'il a des séances avec les kinés tous les jours. Il a des massages vraiment quasi quotidiennement et il faut espérer que ça tienne. C'est une réalité, ouais. Il va devoir serrer les dents jusqu'au bout.
C'est pénible, hein, Jean-Pierre, de devoir disputer une compète quand on n'est pas complètement à 100%, quand on a cette petite gêne dans la tête, on se dit ah là là, pourvu que ça tienne, c'est compliqué, même si ouais. Tous les athlètes de haut niveau ont toujours mal quelque part, hein, finalement.
Ouais, oui, non, mais ça c'est sûr, mais après c'est même dangereux pour lui par rapport à déjà à la Coupe du Monde, par rapport à la saison prochaine. Parce que c'est ce genre de problème. Alors, je sais pas ce qu'il a, donc pour dire combien il a besoin pour récupérer, ça m'est difficile. Mais en fait, c'est pas bien quand on n'est pas à 100% de débuter dans une compétition comme la Coupe du Monde. Parce que tu vas le payer à un moment ou à un autre.
Ouais. Bon, mais pourvu qu'il ne le paye pas tout de suite et qu'il ne le paye jamais, ce serait bien. On a besoin de lui, on a besoin de lui dans cette équipe de France. Un dernier mot, Arthur. La centième, ce sera la centième demain déjà ?
Eh oui.
Oh, incroyable.
De Kylian Mbappé. Ça passe vite, hein. Ça passe très très vite et c'est vrai qu'il va y avoir quand même un moment important aujourd'hui. Hein, je vous rappelle avec
ses. Il sera en conférence de presse ou il va la sécher encore?
Non, je ne pense pas. La tendance est à ce qu'il soit là. C'est ce que nous disait le staff la semaine dernière, puisqu'on rappelle que c'est N'Golo Kanté qui a fait la conférence de presse de veille de match du Sénégal. Kylian Mbappé devrait être là. Ce sera à 21h30 heure française. Ce sera vraiment un moment important parce que évidemment qu'on ne l'a pas entendu depuis le début de ce rassemblement et surtout depuis la fin de saison qu'il a eu assez mitigé avec le Real Madrid. Voilà, on le sait, il est plus impliqué que jamais dans son rôle de capitaine. Il est surmotivé, que ce soit au quotidien, dans les jeux de société à l'hôtel, dans les séances d'entraînement pour des exercices totalement anodins, que ce soit dans les négociations de primes avec la Fédération Française de Football où il a réussi à trouver un accord juste avant le début de la compétition, et que ce soit en match, même s'il a connu déjà des moments compliqués, il a réussi à se relever. Donc voilà, 21h30 conférence de presse, elle sera scrutée de très très près et je pense qu'on peut s'attendre à un nouveau show Kylian Mbappé face aux médias, lui qui est toujours très à l'aise dans ce type d'exercice.
Voilà, il en fait pas souvent, mais quand il le fait, il le fait bien, Jean-Pierre, hein, Kylian, quand il s'exprime, hein, il sait faire. Hein.
Moi, sincèrement, ça ne me choque pas. Au moins, tu as quelqu'un qui dit ce qu'il pense. S'il n'est pas content, il dit ce qu'il n'est pas content. S'il est content, il fait passer aussi le message. Moi, ça me va. Sincèrement, ouais. Ça me va.
Les conférences de presse avec l'équipe de France, c'était quelque chose que tu appréciais ou ça te gonflait?
Non, ça ne gonflait pas.
Parce que tu étais l'équivalent de Kylian, hein, tu étais la star du football français. Hein.
Mais quelquefois c'est pas facile parce que tu dois parler du match, tu dois parler de ton groupe, tu dois parler pas du coach parce que il y a rarement des questions sur le coach, mais tu dois faire passer un peu les messages positifs par rapport à tout ce que tu attends dans ce match et par rapport surtout à comment tu vas jouer. C'est compliqué, c'est quelquefois compliqué.
Voilà, et ben on verra et on a hâte d'écouter cette conférence de presse. Merci Arthur. Donc 21h30 heure française, hein, pour cette conférence. Exactement. De presse de l'équipe de France, donc de Didier Deschamps et de Kylian Mbappé. Merci beaucoup. 17h24, tiens, le Tour de Suisse. On va aller voir un autre champion, un certain Tadej Pogacar. Il avait des fourmis dans les jambes, et quand il a des fourmis, il les écrase, Nicolas.
Il est parti à moins de 10 km de l'arrivée, Tadej Pogacar sur son vélo, même pas en souffrance. Là, on vous rappelle les chaleurs extrêmes sur ce Tour de Suisse. Il a déjà gagné deux étapes, c'est la dernière étape du Tour de Suisse. Il a 4 minutes 22 d'avance au général sur Richard Carapaz, son dauphin au classement. Et il est en train, à 8 km de l'arrivée, d'essayer de recoller sur les échappés qui sont sortis en tout début de journée. Parmi eux, le français Lenny Martinez. Donc Pogacar est en route pour un numéro, Christophe, et tu le sais mieux que personne, hein, quand il appuie fort sur les pédales,
ah ouais,
pour d'aller le chercher.
Ouais, ça va être compliqué. Et je pense que Lenny a intérêt à accélérer lui aussi s'il veut pas voir revenir le maillot jaune sur son porte-bagages dans quelques instants. Merci Nico. On revient dans un instant. Il est 17h25. Jean-Pierre Papin toujours à nos côtés pour évoquer l'actualité de la Coupe du Monde. Dans un instant, Paulo Breitner sera avec nous pour évoquer l'Allemagne qui a battu la Côte d'Ivoire hier non sans mal, et l'Allemagne qui est en tête de son groupe qualifié pour les 16e et qui, si tout va bien pour les deux équipes, enfin je sais pas si ce serait bien d'ailleurs, devrait pouvoir affronter l'équipe de France en 8e de finale. Aïe aïe aïe, on en parle dans un instant.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cécile.
Et dans l'intégral sport, on parle foot évidemment avec cette nouvelle journée à la Coupe du Monde aux États-Unis. On va y aller dans un instant, on va s'intéresser à l'équipe d'Allemagne qui s'est qualifiée pour les 16e après sa victoire face à la Côte d'Ivoire. Jean-Pierre Papin est avec nous. Avant cela, on repart en Suisse sur les routes du Tour de Suisse parce qu'un Français est en tête de la dernière étape, mais que derrière lui, il y a un monstre habillé en jaune, Nico Paolorsi, qui accélère et qui est en train de reprendre petit à petit les secondes durement gagnées par l'Inier Martinez au cours de la journée.
Non, il a tout fait péter Tadej Pogacar. Il a grappillé 50 secondes là en quelques kilomètres à peine, et c'est Lenny Martinez qui a décidé de partir seul en tête depuis le début de la journée. Lenny Martinez, le Français de Bahrain Victorious, qui appuie fort sur les pédales. On l'a vu se retourner 2-3 fois, et là il a décidé de se lancer dans un numéro en solo. On est à moins de 6 kilomètres de l'arrivée. C'est dur pour Lenny, hein, qui appuie très très fort. On rappelle les températures extrêmes en Suisse, ça a un peu baissé là, mais on était sur du 36-37 degrés à la mi-journée, et il y a 55 secondes d'avance pour Martinez sur Tadej Pogacar. Ça va être très chaud, mais en tout cas Lenny Martinez était celui qui avait le plus de jambes dans cette échappée. Il a tenté le coup, on va voir s'il est capable de résister au Slovène qui, fidèle à lui-même, assis sur sa selle, aucune démonstration d'un quelconque effort sur son visage. Il est ultra serein, Tadej Pogacar, et il est désormais à 50 secondes de Lenny Martinez, 5,7 km du sommet. Ça paraît court pour Lenny Martinez, sait-on jamais.
Ouais, c'est vrai. Il faudrait vraiment un miracle. Il faudrait qu'il y ait un coup de fringale de la part de Pogacar. Il sait gérer ses efforts. Et effectivement, le chrono et les secondes qui tombent. Un peu moins de 50 secondes d'avance désormais pour le Français. Ah là là, Polo, on va avoir une victoire française. Polo Breitner, bonjour monsieur Polo. Je sais que vous êtes passionné de vélo, que vous regardez ce qui se passe en Suisse, vous aussi. Hein,
ah ouais, c'est le Tour de Suisse. C'est l'un des tours, même si c'est un peu réduit cette année, qui est l'un des plus passionnants chaque saison, quoi. Mais ça va être dur pour Lenny, je pense, quand même.
Ouais, ça va être très dur, effectivement, pour Lenny qui voit le maillot jaune de Pogacar le rattraper. Polo, donc avec nous, avec Jean-Pierre, pour évoquer la performance de la Mannschaft, qui est donc qualifiée pour les 16e de finale. Polo, après sa victoire hier, victoire compliquée quand même à obtenir face à la Côte d'Ivoire. Les Allemands ont été menés, sont revenus au score. Il a fallu attendre les toutes dernières secondes pour qu'enfin ils fassent la différence. Un adversaire redoutable que cette équipe de Côte d'Ivoire. Hein.
Ben, on en parlait un petit peu hier. Hein. Moi, j'attendais beaucoup de cette rencontre des deux équipes, hein, pour avoir un certain enseignement. Et en fait, finalement, on n'a pas beaucoup résolu les questions posées par cette sélection. Je rappelle quand même qu'il y a eu un fait de jeu pour moi, c'est-à-dire que cette fameuse pause fraîcheur a complètement cassé les jambes des Allemands qui dominaient les 20 premières minutes. Et c'est comme ça que les Ivoiriens ont marqué par Kessier le 1-0. Ensuite, il y a eu des performances individuelles assez moyenne. On sait que Moussiala n'est pas à 100%, que moi j'ai trouvé beaucoup de déperditions techniques dans la passe, je pense à Nathaniel Brown, etc. Donc il y a quand même pas mal de questions à se poser, même si ça reste in fine une victoire avec l'entrée du Joker Undav, qui d'ailleurs, c'est la grande question en Allemagne, va-t-il prendre la place de quelqu'un dans le 11 de départ quand même, parce que tu rentres deux fois, trois buts de passe.
Ah oui,
je pense
c'est
que
tu
as le droit au minimum à un cadeau, comme tu es déjà qualifié pour les 16e. Tu as le droit d'être
titularisé pour le 3e match.
Titularisé pour le 3e, au minimum. Ouais.
Bon, et on n'oublie pas non plus, Polo, que la Mannschaft est enfin qualifiée pour un tour supplémentaire en Coupe du Monde. Ça lui était plus arrivé depuis un moment. C'est incroyable, ouais, mais oui,
la
12
dernière
ans
fois,
après,
ouais,
quoi.
Bah, la dernière fois, c'est d'aller être championne du monde.
Ouais.
Maintenant, encore une fois, il y a eu. Il y a eu 2018 et 2022 qui sont... alors 2022, c'est plus compréhensible, mais 2018, c'est inexplicable ce qu'il s'est passé. Parce que je rappelle toujours cette anecdote, j'avais des journalistes qui arrêtaient pas de, français qui n'arrêtaient pas de m'appeler parce qu'ils étaient persuadés que l'Allemagne allait être championne du monde en 2018. Je rappelle, elle gagne la Coupe des Confédérations avec une équipe à prime en 2017. Ils gagnent l'Euro Espoir avec une équipe à prime 2017. Et en fait, il y a un groupe extraordinaire et on pense que la Coupe du Monde 2018 est pour eux. En tout cas, certaines personnes en France. Et puis, patatras, tout s'est cassé. Et depuis, on est dans un long tunnel générationnel aussi. Parce que quand tu compares avec les années 90 qu'a connu Jean-Pierre, d'ailleurs, qui a passé deux années au Bayern, ou celle, évidemment, de Franz Beckenbauer dans les années 70, on n'a pas tout à fait le même niveau de qualité. Hein. C'est pas tout à fait les mêmes générations.
C'est pas tout à fait la même génération. Mais enfin, ils sont toujours là, les Allemands. Hein. Jean-Pierre, qualifié donc pour les 16e de finale. Est-ce que cette équipe te semble être du même niveau que ces glorieuses devancières?
Alors, difficile, encore une fois, difficile de comparer les générations et les joueurs. C'est, pour moi, le football a quand même bien évolué depuis ces années-là. Bien évidemment, hier, ce qui est important, c'est que la Mannschaft est qualifiée. Mais hier, moi, j'ai rarement vu une équipe de la Mannschaft se faire bouger autant. Parce que hier, s'il y a un vrai numéro 9 dans l'équipe de la Côte d'Ivoire, le match, tu le perds 3-1. Ça, c'est sûr et certain.
Ouais. On rappelle et que les Ivoiriens, ils avaient bougé de la même façon en match de préparation à Nantes. Hein.
Ouais, ouais, non, mais ils nous ont bougé, ils nous ont battus. Hier, tu marques à la 95e et ils ont l'occasion de tuer le match à 3 minutes avant. Alors, ouais, il faut faire attention quand même sur l'équipe d'Allemagne. Je pense que c'est pas si équilibré que ça pour moi aujourd'hui.
Ouais. Paulo, tu es d'accord avec Jean-Pierre?
Oui, parce que c'est une équipe de toute façon qui, depuis ce qu'on appelle en Allemagne la révolution de leur football, qui était nécessaire, hein, qui a amené quand même le titre à la Coupe du Monde 2014, ils sont toujours en train de jouer d'une façon extrêmement agressive en devant sa attaque. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir le contre ivoirien qui n'a pas fonctionné, mais les joueurs de la défense ivoirienne restaient en défense, tandis que quand les Allemands attaquent, eh ben le bloc équipe monte tellement haut qu'il n'y a plus personne derrière. Donc il faut faire très attention. Maintenant, oui, hier, ce qui est impressionnant, et on en parlait aussi Christophe hier, c'est la puissance physique qu'a dégagé la Côte d'Ivoire, mais ça n'a pas empêché quand même l'Allemagne de l'emporter. Donc, ils vont pas rencontrer non plus une équipe aussi puissante que à toutes les rencontres comme ça.
Mais moi, je pense que dans cette équipe d'Allemagne, de la manière dont elle joue, je pense qu'il y a des joueurs qui sont pas du tout faits pour jouer de cette manière. Moi, je vois Leroy Sané quand je le vois jouer hier. Lui, qui aime bien pouvoir défier, pouvoir partir tout seul. Tu le vois revenir, tu le vois passer, tu sens qu'il n'est pas à l'aise, mais il passe pour avoir cette possession que demande Nagelsmann.
Ouais. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de blessés. Il y a eu des blessés. Il y avait Gnabry qui était blessé. Il y a la jeune pépite Lennart Kahl qui s'est blessé juste avant le mondial. Donc en fait, Leroy Sané se retrouve sur le côté droit alors qu'il évolue plutôt côté gauche au passage. Mais c'est plutôt Moussiala qui n'est pas en forme. C'est Florian Wirtz.
Ouais, mais il est moins décisif. Ben, Leroy Sané, il est moins décisif que ce qu'il était quand il prenait le ballon et quand il était à Munich.
Ça fait quelques années que Leroy Sané, il est sur courant alternatif. Donc il y a pas mal de choses. Puis il y a la blessure de Schlotterbeck. Hein. On va voir si c'est fini ou pas pour lui en défense centrale. Donc ce serait Rüdiger qui le remplacerait. Mais on verra.
Bon, alors en regardant les tableaux là, j'ai une petite sueur froide là parce que il me semble que si la France et l'Allemagne terminent première de leur groupe, il est possible que les deux se retrouvent en huitième de finale. Or, Jean-Pierre, les affrontements franco-allemands en Coupe du Monde, c'est pas des bons souvenirs pour nous, hein.
Ouais, mais ça c'était avant.
Ah ouais, d'accord. Mais on va quand même se faire quelques sueurs.
Non, mais bien sûr. Mais le dernier France-Allemagne, je pense que les Allemands nous avaient battu 2-1. Donc ils nous connaissent, on les connaît, on sait que c'est jamais un match comme un autre. C'est jamais facile, ni pour les uns ni pour les autres. Mais au jour d'aujourd'hui, je donne un petit avantage à l'équipe de France.
D'accord. Polo, t'es d'accord avec Jean-Pierre? Avantage à l'équipe de France si les deux équipes s'affrontaient demain et s'affronteront peut-être demain?
En Allemagne, on dit, pour cette équipe d'Allemagne, Endstation, huitième de finale contre la France. Le terminus, c'est en huitième.
Ah ouais?
Donc, ouais, c'est très clair.
Vous dites ça, mais bon, il dit ça.
Mais c'est comme ça.
Ouais. Bon, bah écoute, on va voir si le terminus est là. En tous les cas, ça va nous faire parler cette histoire-là. Si la France et l'Allemagne s'affrontent en huitième, pour toute notre génération, nous qui avons été marqués par ces défaites 82, 86, 2014 hein, également battu, c'était en quoi, en quart de finale. Je me rappelle, quart de finale.
Avec Mats Hummels qui marque de la tête. Ouais.
Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Polo. Je te laisse repartir regarder le Tour de Suisse parce que pour l'instant il fait de la résistance, mais pour combien de temps? Lenny Martinez toujours en tête, il est à quoi, 2 km de l'arrivée, un peu plus Nico?
Ouais, 2,5 km, Lenny Martinez, tu le disais, qui résiste bien à Tadej Pogacar malgré tout. 26 secondes de retard pour le Slovène qui a avalé tout le monde un par un. Nairo Quintana, Richard Carapaz, tous ses rivaux au classement général du Tour de Suisse ont été pulvérisés. Le seul qui lui tient tête, c'est Lenny Martinez, mais 2,4 km avant le sommet et 22 secondes désormais d'avance. Et avec le rythme et l'allure de Pogacar, on voit pas comment Lenny Martinez va pouvoir résister au Slovène. En tout cas, il fait une superbe étape, Lenny Martinez. Il est très bon, très régulier depuis le début de la saison et ça montre qu'il arrivera en forme sur ce Tour de France. 2,3 km, 22 secondes d'avance, et Martinez qui donne tout, Christophe, désormais quelques virages, quelques lacets de l'arrivée ici à Villars-sur-Ollon.
Ouais, il donne tout, mais ça, malheureusement, ça ne sera pas suffisant pour empêcher le retour de Pogacar, qui n'est plus qu'à 20 secondes derrière Lenny Martinez, à 2 km de l'arrivée. 17h40 sur RMC, on revient dans un instant, toujours avec Jean-Pierre, pour évoquer le match du jour, le match vedette du jour qui débutera dans 20 minutes maintenant, qui va opposer l'Espagne à l'Arabie Saoudite. L'Espagne, qui a été tenue en échec lors du premier match, va-t-elle se rattraper toute la péninsule ibérique? Attends cela avec impatience, on en parle dans un instant.
Ne ratez rien de la Coupe du Monde de foot sur RMC.
Ce soir à 18h, Espagne, Arabie Saoudite. À 21h, Belgique, Iran. Suivi des matchs de la nuit en intégralité.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessier.
17h42, toujours en compagnie de Jean-Pierre Papin. On évoque évidemment la Coupe du Monde et l'actualité de la Coupe du Monde, mais un petit détour tout de même par le Tour de Suisse, parce qu'il y a un suspense incroyable à un peu plus d'un kilomètre de l'arrivée de la dernière étape. Un Français est en tête, mais attention, parce que derrière, Pogacar, Nico, Paul Orsi est en train de revenir très fort et va avaler le Français dans quelques instants.
Il est trop fort Tadej Pogacar, 1,2 km avant l'arrivée ici à Villars sur Ollon. Lenny Martinez, les contrastes entre les deux visages sont saisissants, Christophe. D'un côté, Tadej Pogacar 10 secondes derrière, assis sur sa selle, ça ne bouge pas d'un pet pour Pogacar, on ressent à peine les 36 degrés sur le vélo. Et de l'autre, Lenny Martinez qui est devant, qui envoie tout sur ses pédales, qui donne ligne de la tête, on voit ses dents, on voit tout, le sourire, le visage est totalement déformé pour Lenny Martinez. Et alors qu'il va passer sur la flamme rouge en tête, il y a désormais plus que quelques mètres d'avance pour Martinez sur Tadej Pogacar. Quelle course de Tadej Pogacar, quel Tour de Suisse qui va avaler le Français, tu le disais, et qui va signer sa troisième victoire d'étape dans ce Tour de Suisse qui va probablement terminer, on n'a pas encore fait les calculs hein, mais avec plus
terrible.
De 5 minutes
c'est
d'avance
qu'il lui met,
sur la base.
Il s'est mis en danseuse, il a accéléré pour impressionner et pour essayer d'enfoncer la tête de son adversaire. Lenny, qu'il a vu passer sur la gauche là, une fusée jaune.
Rien faire. C'est un TGV, ouais, c'est une fusée jaune, tu l'as dit, qui l'a débordé. Beaucoup trop fort à l'entrée du village, à l'entrée de Villars sur Ollon. Il reste 800 mètres et il y a déjà désormais un gros écart de fait entre Tadej Pogacar et Lenny Martinez, que c'est dur. Hein, pour tous les concurrents de Tadej Pogacar qui sont des monstres en montagne. Hein, quand on regarde quand même l'opposition qu'il y avait sur ce Tour de Suisse, les Carapaz, même dans les échapper, les Bauke Mollema, les Nairo Quintana, il y avait des gros grimpeurs, des grimpeurs d'expérience. Pogacar, quand il a décidé de sortir, il a mis tout le monde d'accord et il arrive bien évidemment en immense favori sur le Tour de France. Il paraît indestructible, imbattable, et franchement je suis encore une fois surpris, Christophe, par sa capacité à à ne montrer aucune émotion. On a l'impression qu'il ne souffre pas sur le vélo, ouais, alors qu'il y a des conditions extrêmes aujourd'hui. C'est ça qui est complètement dingue quand même. Et Pogacar qui se permet désormais de ralentir dans les rues de Villars-sur-Ollon, qui ça y est a fait le plus dur. Il voulait se jauger, on en parlait avec Jérôme Pinot tout à l'heure, il voulait voir ce que ça donnait. Il avait envoyé ses équipiers rouler, d'ailleurs ils ont tous pété, ses équipiers. C'est Decathlon CMA CGM qui l'a emmené derrière. Et il s'est dit à 10 km de l'arrivée, allez, je vais tenter d'aller la chercher celle-là. Il est allé la chercher, troisième victoire d'étape pour Tadej Pogacar sur ce Tour de Suisse. Et Lenny Martinez va faire un magnifique deuxième.
Terminer deuxième d'une course quand Pogacar est là en montagne, c'est presque une victoire finalement, Nico.
C'est clairement ça. Et surtout dans ce qu'il a montré, on le disait, il a été régulier sur le podium du Tour de Romandie. Et on le connaît, habitué des coups d'éclat, Lenny Martinez, surtout la saison dernière, mais il avait parfois manqué un peu de régularité sur les grands tours. Et là il est en train de s'affirmer comme un espoir solide français pour le prochain Tour de France. Victoire de Tadej Pogacar juste derrière Lenny Martinez, deuxième grande course de Lenny Martinez. Mais Pogacar est bien trop fort avant d'entamer le Tour de France.
Voilà, il lui a pas manqué grand chose il est arrivé à quelques secondes d'avance seulement. Tadej Pogacar qui remporte cette dernière étape du Tour de Suisse. Lenny Martinez magnifique et valeureux deuxième de l'étape. Merci Nico. Pour le Tour de Suisse, les championnats de France la semaine prochaine, le Tour de France dans 15 jours, 17h46. Il nous reste une petite minute 30 avec Jean-Pierre et avec Edgar Grollo pour évoquer la Rora, l'Espagne qui affronte l'Arabie Saoudite dans un petit quart d'heure. Salut Edgar.
Salut Christophe, salut à toutes et à tous.
Bon alors, l'Espagne accrochée par le Cap Vert, scandale national la semaine dernière. Là, il faut faire autre chose face à l'Arabie, quoi. Il faut gagner, quoi. Autrement,
il y a une petite pression. Mine de rien, il y a une petite pression parce que le dernier match ce sera face à l'Uruguay. Donc les Espagnols seraient bien inspirés de remporter ce match et de donc quasiment valider, Christophe, leur qualification en cas de victoire face à l'Arabie Saoudite. Et l'information du jour, il y a eu 4 changements dans le 11 de l'Espagne par rapport au premier match. Et parmi ces changements, l'entrée dans le 11 de départ de Lamine Yamal qui, on le sait, revient de blessure, revient progressivement et il devrait jouer donc au moins une heure ce soir, ou plutôt ce midi, puisque ici il est midi, heure locale à Atlanta.
Voilà, midi, on joue à midi aux États-Unis en pleine chaleur, ça c'est sympa. Jean-Pierre, l'Espagne un peu sous pression, mais enfin ça devrait le faire quand même face à l'Arabie Saoudite, non? Et avec Yamal en plus.
Ouais, sous pression, mais bon, je pense que peut-être qu'ils ont sous-estimé un petit peu cette équipe du Cap-Vert la dernière fois, donc ils se sont fait surprendre. Normalement, il n'y aura pas de deuxième surprise ce soir, je pense.
Ouais. Et c'est jamais facile pour une grosse équipe qui fait partie des grands favoris comme l'Espagne ou comme l'équipe de France d'entrer dans une compétition, surtout face à un adversaire réputé bien inférieur, Jean-Pierre et Edgar.
Mais disons que toi, tu peux te permettre, et comme souvent les grosses équipes, quand elles arrivent dans ce genre de compétition, elles sont encore en rodage. Alors que les petites équipes sont déjà presque au taquet, prêtes à en découdre. Et c'est là où ils piègent, en fait. Parce que sur le papier, bien évidemment, t'es beaucoup plus fort. Mais dans l'envie, quelquefois, t'es un peu surpris.
Ouais. Bon, on va voir si l'Espagne se fait surprendre aujourd'hui par l'Arabie Saoudite. Le coup d'envoi, c'est donc dans 12 minutes. On va vivre ce match avec toi, donc en direct d'Atlanta. Merci Edgar. Merci Jean-Pierre de m'avoir accompagné durant toute cette
heure. Avec plaisir.
Et bonne suite de Coupe du Monde. On se reparlera évidemment dans les jours qui viennent. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Karine Galli pour l'intégrale Coupe du Monde. Bonne soirée et bon match. Ciao.